poule vanille.
Je pense.
J'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Je sais pas. Deux boules vanille !
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane. Bienvenue dans Deux boules vanille. Deux boules vanille, c'est tous les jours de l'été à 17h et en rediffusion le lendemain à 8h. Une émission estivale réalisée par les salariés et les bénévoles de Canal B. Aujourd'hui, on va revenir sur le rapport du Haut Conseil à l'égalité qui alarme sur le sexisme en France et le regain des masculinistes. On en parlait dans Les Héroïnes en début d'année avec Marine Combes, fondatrice du magazine féministe Rennais Yeg. Et puis on écoutera ou on réécoutera l'interview de Suzanne Joly, fondatrice des ateliers de formation à l'égalité filles-garçons, à l'éducation à la sexualité et à la vie affective, Suzette d'École Les Étiquettes, et autrice du livre L'amour, la sexualité, on s'en parle, paru il y a quelques semaines dans la collection Sans tabou des éditions Magenta. Le tout sera agrémenté de deux extraits de l'excellente émission de Karim Rizouli et Camille Diao. Alors ça sera celle du 25 janvier dernier qui réunissait Olivia Gazalet, Lorraine Bastide, Anne-Cécile Maillefer, Laurent Métry et Nathan Devers, rien que ça. Quelques instants sur le très inquiétant, voire angoissant, cinquième rapport du Haut Conseil à l'égalité sur le sexisme en France. Un rapport paru fin janvier, certes, mais dont on a trop peu parlé au vu de la gravité de ce qu'on y apprend. Parce que figurez-vous que 37% des Françaises, une sur trois en fait, ont déjà vécu un rapport sexuel sous la contrainte, non consenti. Et 14% ont déjà subi un acte sexuel imposé. Un viol, quoi. 23% des hommes de 25 à 34 ans estiment qu'il faut parfois être violent pour être respecté. Ben voyons. 16% des hommes pensent qu'une femme agressée sexuellement est en partie responsable. Les sphères dans lesquelles les femmes subissent le plus de situations sexistes sont la rue et les transports pour 57% d'entre elles, le foyer pour 49% d'entre elles, le monde du travail pour 46% d'entre elles. Le sexisme stagne en France, voire s'intensifie, et on assiste à l'émergence d'une pensée masculiniste chez les 25-34 ans. C'est ce que révèle le cinquième rapport annuel du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes, et le bilan est alarmant. Le rapport s'appuie sur le deuxième baromètre sexisme réalisé par l'Institut Via Voice auprès de 2500 hommes et femmes, réalisé en octobre 2022. Il met en avant le sexisme non pas stagnant, mais renforcé dans certaines sphères de notre société, comme l'université et les réseaux sociaux. Résultat, 4 jeunes femmes sur 5 considèrent qu'il est difficile d'être une femme dans la société actuelle et 9 femmes sur 10 adoptent des conduites d'évitement pour éviter les actes sexistes. Alors c'est-à-dire qu'elles vont par exemple renoncer à s'habiller comme elles le souhaitent ou renoncer à sortir seules. Tiens, il est 19h, je me ferais bien un petit cinoche. Ben non. Elles évitent de parler trop fort, elles évitent de dire certaines choses, elles s'auto-censurent pour ne pas se prendre des réflexions, voire des actes sexistes dans la tronche. Les hommes, eux, refusent toute généralisation. 7 hommes sur 10 considèrent qu'on généralise en considérant que les hommes sont tous sexistes, le fameux « not all men » et « gna 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 » et « gna 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 ». Enfin, les Français et les Françaises ont une faible confiance dans la justice et dans les acteurs publics pour lutter contre les actes et propos sexistes. 77% des sondés ont un sentiment d'impunité des actes sexistes. Éric Dupond-Moretti, si tu m'entends. Sylvie Pierre-Brossolette, la brillante présidente du Haut Conseil à l'égalité, rappelle ce qu'elle avait déjà dit en septembre dernier au moment de la rentrée des classes. Il faut s'attaquer à ce problème à la racine, c'est-à-dire dès le plus jeune âge. Et le Haut Conseil à l'égalité fait aussi 10 recommandations pour un plan d'urgence de lutte contre le sexisme. Je vais vous les citer, ces 10 recommandations. D'abord, augmenter les moyens financiers et humains de la justice pour former en plus grand nombre les magistrats chargés de traiter les violences intrafamiliales. Éric Dupond-Moretti, si tu m'entends. Deuxième recommandation, instaurer une obligation de résultat pour l'application de la loi sur l'éducation à la sexualité à l'école, parce que ça aussi, hein, on en est loin. Réguler les contenus numériques pour lutter contre les représentations dégradantes des femmes, en particulier les contenus pornographiques. Rendre obligatoires les formations contre le sexisme par les employeurs. Généraliser l'éga-conditionnalité. Alors c'est quoi l'éga-conditionnalité ? C'est-à-dire qu'on ne verse pas de subventions, d'argent public tant qu'on n'a pas une preuve de l'égalité. Créer une haute autorité indépendante pour lutter contre les violences sexistes en politique. Conditionner les aides publiques à la presse écrite à des engagements pour l'égalité. Évaluer annuellement la représentation des femmes dans les manuels scolaires. Il serait temps. Interdire la publicité pour les jouets genrés. Il serait temps aussi parce que nos copains espagnols, il y a bien longtemps qu'ils ont prévu cela et que donc la publicité pour les jouets genrés est interdite en Espagne. Institutionnaliser la journée nationale de lutte contre le sexisme le 25 janvier. Alors ça, moi, les journées dédiées, j'ai un peu de mal, mais bon, pourquoi pas. Et puis, il y a un autre phénomène, Marine, souligné par le rapport du Haut Conseil à l'égalité, c'est la forte augmentation du masculinisme. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une réaction virulente de certains hommes au féminisme. C'est de l'antiféminisme archaïque, de la misogynie exacerbée qui s'exprime par la violence physique ou verbale, des menaces, des insultes, du harcèlement, des tentatives de museler les femmes et notamment et surtout les féministes avec énormément de cyberharcèlement, souvent aussi des raids. Alors c'est quoi les raids ? Eh bien c'est plusieurs mecs qui s'en prennent pendant plusieurs jours, semaines, mois, à une seule fille sur les réseaux sociaux et internet, car le masculiniste aime rester caché derrière son écran, mais il n'en reste pas moins dangereux, c'est un gros misogyne radicalisé. Il aime donc cyberharceler les filles et les femmes, et il aime faire ça à plusieurs, parce que le masculiniste aime agir en meute. Dans cette meute, qu'on peut également appeler manosphère, on retrouve qui ? Ben on retrouve les incels, ces fameux célibataires involontaires, parce que s'ils sont célibataires, c'est de la faute des filles. On retrouve également les MGTOW, Men Going Their Own Way. Je vous remercie de souligner mon accent. Men Going Their Own Way, ça veut dire les hommes suivant leur propre chemin, et surtout un chemin qui est loin, loin, très loin des femmes, du mariage et de la paternité, parce que tout ça leur est excessivement nocif et nuisible, pensent-ils. Dans cette manosphère, cette meute, on retrouve également des coachs en séduction et des militants pour les droits des pères. Voilà en tout cas pour les grandes lignes, les quatre grands profils de ces masculinistes. Alors ils aiment discuter entre eux, se montrer le bourrichon entre eux, se retrouver aussi lors de stages virilistes où ils désinguent les femmes et font des concours de zizi et de celui qui pissera le plus loin. Souvent aussi, outre le fait de cyberharceler les femmes, ils appellent à être violents avec elles. Et là, ça pose vraiment problème. C'était le cas il y a plusieurs années, hein, il y a une vingtaine d'années, de ce mec, ce Québécois, qui avait tué 14 femmes à Polytechnique parce que c'était un masculiniste. Alors, on vous en parlait déjà en 2017 avec Léa Robert sur cette même antenne de ces camps virilistes où il faut pousser de grosses bagnoles le plus loin possible avec ses muscles et dire les pires choses sur les femmes qui sont responsables de tous les maux de la terre et surtout des échecs, des défaillances des hommes. Parce que chez les masculinistes, la remise en cause est impossible. L'analyse de ses propres défauts, échecs ou failles n'est pas envisageable. On ne doute pas quand on est un masculiniste. On est droit dans ses bottes, car on sait que la faute est féminine et que tout est de leur faute aux bonnes femmes, qu'elles sont responsables de tous les maux de la terre et surtout des petits ennuis et des petits bobos des masculinistes. Et gna gna gna, et gna gna gna. On parle de vie ou de mort, là, avec ces comportements sexistes, virilistes, etc. Marine, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce retour. C'est assez édifiant, les chiffres du
C'est flippant parce qu'on se dit quand même que, enfin, justement, on se bat au quotidien, qu'aujourd'hui, c'est un combat qui est plus médiatisé qu'avant, un petit peu mieux traité quand même par les médias et même par les arts et la culture en général, qu'il y a quand même beaucoup de formations justement mises en place. On espère quand même que ça avance et on se prend ces chiffres. Enfin, moi, je trouve ça d'une violence inouïe, se dire « Waouh, en fait, non, quoi !» Enfin, alors, faut mesurer quand même, parce que oui, il y a des avancées et faut les mesurer et pas juste se dire que c'est un espoir, quoi. C'est une réalité, on avance et oui, en fait, en voyant effectivement ce backlash, c'est là où on voit que ça avance aussi et que les voix des femmes et des personnes sexisées en général prennent de plus en plus d'ampleur. Sinon, il n'y aurait pas cette peur, cette résistance en face. Mais c'est cata, quoi. Moi, je me rappelle d'un reportage qui était passé au JT de France 2, mais il y a des années et des années, où Pujadas déjà annonce la fin du sexisme en France, qui date à peu près dans les années 60-70, quoi. On se dit, waouh, ok, donc en fait, ça fait 50 ans que l'égalité est là, on ne le savait pas, mais lui, visiblement, le sait, et balance ce reportage sur comment être un homme.
C'est celui dont je parlais. On avait vu la même chose avec Pujadas, qui savait que l'égalité était arrivée, et sur ce fameux camp viriliste. Et avec Léa, on avait réagi en disant « c'est pas possible ». Et c'était en 2017.
Ah, mais c'était fou, ouais. Et puis c'était, enfin, vraiment, tu vois les gars, enfin, ils font Rocky là-dedans, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Et effectivement, bon, plein de bêtises, hein. Enfin, la transmission de père en fils, de ce que c'est la virilité, et notamment un homme qui est un peu plus jeune et qui vient dire effectivement, aujourd'hui on a le droit d'être sensible, et du coup moi j'y perds complètement ma place. Enfin, bon, on sent quand même qu'il y a une peur, qu'il y a une perte de référence dans le genre, et du coup ce besoin de retrouver les valeurs virilistes et masculinistes, c'est terrible.
Cette peur, la peur qu'on soit toutes des castratrices, qu'on veuille le pouvoir alors qu'on demande juste l'égalité des droits, d'être payé comme les mecs, elle vient d'où cette peur? Moi j'imagine, chez ces mecs, quand on voit le niveau, quand ils partent en raid sur les réseaux sociaux contre une nana, parce que c'est inventer des fake news, raconter n'importe quoi, faire des deepfakes, c'est odieux. Oui. Et on se dit, c'est pas très intelligent non plus, parce que c'est que sur du mensonge. Et on se dit quand même que cette peur, elle est basée sur une espèce de fragilité, quoi, en fait, d'avoir peur de ne pas être assez homme tel que la société nous le renvoie. Et donc, c'est forcément de la faute des femmes et pas du patriarcat qui les élève dans une virilité toxique, dire « ouais, je dois être un bonhomme, je dois faire 1m90 et être costaud, cracher par terre et pousser une voiture dans un étang », comme Pujadas nous l'avait montré en 2017. C'est quand même construit sur la bêtise, comme on le disait, mais aussi sur une crainte de ne pas être assez viril.
C'est ça. Et puis, on a des injonctions, qui sont hyper fortes, le Haut Conseil à l'égalité le rappelle, hein, à la racine, c'est dès le plus jeune âge que on nous met tout ça en tête, et que, cet ordre un petit peu d'être un homme, un vrai. Il infuse dans tous les domaines de la société, et je pense que effectivement, nous on prend ses temps en tant que femme, en tant que personne sexisée, pour se rassembler, se dire qu'est-ce qui dans nos histoires individuelles fait collectif. et de se dire bah voilà, en fait nous on aimerait voilà pouvoir avoir beaucoup plus de liberté dans nos genres, dans nos êtres, etc., dans nos parcours. Les hommes prennent pas ces temps parce qu'ils se sont auto-exclus en fait de ce mouvement vers l'égalité. Et aujourd'hui, ouais, il y a une peur de perdre tous ces repères et de se dire, mais en fait, aujourd'hui, quelle est ma place ? Mais en fait, faut réfléchir 3 secondes. Mais les femmes, c'est exactement pareil. Nous aussi, enfin, ça pourrait être très confortable. Enfin, même si on est discriminé, etc., c'est beaucoup plus confortable de se conformer, enfin, aux attendus en tant que femme. Et bah non, enfin, c'est que il faut que tout le monde puisse avoir les mêmes chances et les mêmes possibilités de trajectoire. Donc,
mais ce qui est très très inquiétant, pour revenir sur le rapport du Haut Conseil à l'égalité et conclure là-dessus, ce qui est très inquiétant, c'est de se rendre compte que les plus jeunes, les 24-34 ans, chez les garçons, pensent que à un moment, pour se faire respecter, il faut être un peu violent, que si elle se fait violer, elle l'a un peu cherché. Et ça, c'est terrible parce qu'on a loupé un truc, et il y a eu un creux, et on a loupé un bout d'éducation. C'est... Moi, ça me fait vraiment, vraiment flipper. Non, voilà, on le dit, important. on le répétera. Merci beaucoup, Marine Combe.
Merci à vous.
Le 25 janvier dernier, Karim Rizouli et Camille Diao recevaient dans leur émission C'est ce soir Lorraine Bastide, journaliste et essayiste, Anne-Cécile Maillefer, présidente fondatrice de la Fondation des Femmes, toutes deux militantes féministes, et Olivia Gazalet, philosophe, essayiste et maîtresse de conférences, autrice du livre Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, paru en 2017. À l'époque, on vous en avait fait une fiche de lecture à cette même antenne dans Les Héroïnes. Toutes trois ont réagi au rapport du Haut Conseil à l'égalité et notamment à la question du sexisme chez les jeunes. Elles ont aussi parlé du backlash et je voulais vous faire écouter ça.
Le HCE est une institution importantissime. Sylvie Pierre-Brossette est une femme, une vraie féministe, qu'elle mérite d'avoir la voix qui porte haut et heureusement qu'elle est là. Et merci pour le travail. Mais la juxtaposition de ces chiffres, pour moi, elle donne une espèce d'ambiance flippante qui permet en fait aujourd'hui de questionner la pertinence de nos combats, l'efficacité de nos combats féministes. Alors que ces chiffres ne racontent rien d'autre que ce que nous, féministes, on dit depuis des années, peut-être bien depuis les années 70. Oui, évidemment, une femme sur trois est violée. Enfin, c'est ça, MeToo, c'est ça qu'on dit.
Vous voulez réagir, Olivia Gazalet ?
Moi, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on peut retrouver quand même, si on veut être optimiste là-dessus, moi j'y arrive. C'est-à-dire que là, ce que je vois, c'est que les femmes prennent conscience. Et ça, c'est bien. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, ça donne des chiffres catastrophiques.
Et les hommes, d'ailleurs, c'est global.
Mais la révolution commence toujours par la prise de conscience des personnes qui souffrent des inégalités. Mmh. Si les femmes n'ont pas conscience de ce qu'elles vivent, on ne pourra jamais changer la société. Donc c'est le préalable à tout. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, l'autre chose que je trouve intéressant, c'est quand même de pouvoir quand même montrer que c'est pas si simple pour la jeune génération. Et c'est pas le seul sondage. Et c'est pour ça que moi, ce sondage, quand même, je soutiens ce qu'il dit. Parce qu'une autre étude de mémoire traumatique et victimologie en 2022 sur la culture du viol a aussi montré, c'était Ipsos, des chiffres assez hallucinants sur la conception des jeunes hommes, sur qu'est-ce qu'un viol, etc. Et là, on voit quand même qu'il y a une culture du viol assez affolante sur ces jeunes générations, alors qu'effectivement, dans mon entourage, moi, j'ai des nièces qui sont absolument hyper féministes, etc. Et donc, j'ai l'impression que ça bouge. Sauf qu'en fait, quand on regarde dans les grandes masses, peut-être pas tant que ça. Et c'est intéressant de voir que donc, le sexisme ordinaire peut-être se démultiplie. Et c'est aussi intéressant dans le rapport, et c'est là que moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose aussi qui est très fort dans la sortie de ce rapport et l'émoi qu'il suscite, c'est qu'il pose aussi la question du sexisme politique, c'est-à-dire de ce qu'il y a aujourd'hui de nouveau par rapport à avant, je pense, c'est cette idéologie masculiniste qui est là en rampant, que nous on voit pas parce qu'en fait c'est pas du tout dans nos entourages.
Moi je la vois bien dans mes DM depuis quelques années.
Je pense qu'on peut le voir, je pense que d'autres personnes dans d'autres mouvements politiques le voient beaucoup plus que nous et qui est central. C'est central pour Poutine, vous l'avez dit tout à l'heure, pour Bolsonaro, pour Trump, c'est central pour l'extrême droite. Voilà. Quand on voit que Julien Rochely, l'ancien président du Front National de la Jeunesse, a quitté le Front National pour monter une structure qui s'appelle Mal Alpha, dans laquelle il forme des mâles et des mâles alpha, on voit bien qu'en fait c'est pas un détail pour eux, c'est c'est un combat essentiel, c'est un combat primordial. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant dans ce rapport, c'est de faire la boucle. Mmh. Et de montrer qu'aujourd'hui, moi je suis un peu d'accord avec toi, c'est peut-être pas forcément le sexisme dans sa forme la plus ordinaire qui explose.
Qui progresse.
Non. Mais c'est cette idéologie, c'est ce côté très politique, mmh. ça arrive politiquement dans nos pays et c'est ça qui est inquiétant.
Comment est-ce que vous regardez ce débat, Olivia Gazalé?
Alors, moi ce qui me frappe, tout à l'heure vous disiez comment ça se termine. Mmh. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se demander comment ça a commencé. Parce que là, on parle depuis MeToo, tout le monde parle de féminisme, il ne faut pas oublier que c'était assez mal porté il y a encore 20 ou 30 ans de se dire féministe. Mmh. Et surtout qu'on vient de 2000 ans d'une construction de genre qui est tellement solide, qui est tellement enracinée, qui est tellement systémique que c'est très difficile de la déconstruire en une, voire deux générations.
Ouais. Donc, si vous voulez, raison de plus en 5 ans.
Voilà, c'est-à-dire que les stéréotypes sexués, ils sont nés, on pourrait remonter jusqu'à la Grèce antique, c'est là qu'on a commencé à poser...
De préhistorique.
Même oui. Mais disons que ça commence à être théorisé, on va dire, avec Aristote, cette idée que l'homme, tout simplement, est supérieur à la femme, qu'il y a une espèce de supériorité naturelle, une supériorité d'essence. Mmh. Et après, on a dessiné deux figures qui sont pas seulement opposées, au sens où on va dire l'homme est fort, la femme est fragile, l'homme est courageux, la femme est peureuse, etc. Ce sont des figures qui sont hiérarchisées. C'est-à-dire que l'homme est au-dessus de la femme. Et ça, pendant 2000 ans, ça a été théorisé d'abord avec la philosophie. Il y a eu des images de la mythologie qui sont venues nous rappeler que la femme était dangereuse, prédatrice, etc. Et que les hommes, c'était des héros, c'était Achille, c'était Hector, c'était les héros homériques. Et puis après, vous avez les religions qui se sont emparées de la question et qui nous ont encore mis une petite couche pour dire que la femme était inférieure. D'ailleurs, elle n'a pas le droit à la prêtrise dans la religion catholique. Elle est éloignée des fonctions sacerdotales dans presque toutes les religions. Après, vous avez la médecine.
Pas que Ève naît de la côte d'Adam.
Bien sûr, bien sûr. Et vous avez la médecine aussi, la biologie, qui vont aussi entériner cette idée d'une supériorité d'essence. Et puis enfin le droit, parce que tout ça, ça va se manifester par des injustices et des inégalités juridiques. Et encore, il n'y a pas si longtemps, jusqu'au code Napoléon, où la femme n'avait pas les mêmes droits. Donc comment, en une génération, voire en deux générations, on peut déconstruire tous ces stéréotypes? Donc, backlash, oui, mais c'est simplement que ça n'était pas tout à fait encore arrivé. Quand on parle de backlash, ça donne l'impression qu'on avait réalisé le féminisme, c'était achevé, et puis qu'on revient en arrière. En réalité, il ne s'est jamais achevé. Donc on ne revient pas en arrière, on n'a juste pas fini d'avancer.
C'est-à-dire que ce n'est pas tant un backlash ou un retour de bâton qu'une lumière crue mise sur une réalité.
Je pense en fait que probablement le HCE a besoin de ces chiffres parce qu'il y a besoin de preuves. C'est-à-dire que finalement, nos discours ne suffisent pas. Les femmes sont des millions dans l'espace public depuis 5 ans à dire « moi aussi, j'ai été victime de viol ». Apparemment, ça ne suffit pas. Apparemment, il faut qu'il y ait en une des quotidiens 37% des femmes, selon un sondage validé par une institution gouvernementale reçue par Macron, disent qu'elles ont été victimes d'un rapport sexuel sans consentement. Ah bon ? Il y a des viols, sans déconner. Enfin, c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est qu'à un moment donné, il faille des sondages et des chiffres pour dire ce qu'on dit depuis des siècles.
Mais la question, ce n'est pas uniquement de le dire à l'Élysée ou au gouvernement, mais aussi à tous les hommes, pour le coup, on va continuer à en parler, qui peut-être n'en ont pas encore conscience, malgré les
oui, mais ce chiffre de 93% des Français, Françaises interrogés, parce que pour le coup, si je ne me trompe pas, ce chiffre, il concerne l'ensemble des personnes interrogées, quel que soit leur genre, prennent conscience d'une égalité entre les hommes et les femmes. Ça, je trouve que c'est un progrès colossal. Parce que quand MeToo s'est lancé il y a 6-7 ans, le discours qu'on entendait principalement, c'était « mais non, l'égalité, elle est atteinte. Vous avez le droit de vote, vous avez la pilule.
Qu'est-ce que vous voulez de plus ?
Mais ça, c'est un progrès.
Puis je pense qu'il y a quand même une résistance aussi. C'est-à-dire, si le sexisme existe, c'est bien parce qu'il bénéficie quand même à une certaine partie de la population qui n'a pas tellement intérêt à voir les choses bouger. Et à des postes à responsabilité, je ne vous en parle pas. Les hommes qui n'ont pas tellement intérêt à laisser la place, une certaine place en tout cas, si ce n'est leur place à des femmes. Donc c'est aussi ça, ces résistances et ces réticences. Évidemment que c'est pour ça d'ailleurs que depuis très très longtemps, ça bouge difficilement.
Pause musicale dans Deux Boules Vanille sur Canal B. On va écouter Mandy Indiana avec leur titre Love Theme. Thank you. Love Theme de Mandy Indiana sur Canal B dans Deux Boules Vanille. Retour sur le plateau de C'est ce soir de Karim Rizouli et Camille Diao, toujours avec Lorraine Bastide, Anne-Cécile Maillefer et Olivia Gazalet, mais aussi Laurent Métry, réalisateur auquel on doit notamment les documentaires Les Mâles du siècle sur ce que le féminisme a fait aux hommes ou pas, et plus récemment Les Petits Mâles, films d'éducation féministe pour les garçons de 7 à 18 ans, des films qu'il a co-réalisés avec Camille Froidevaux-Métry et également Nathan Devers, philosophe, écrivain et essayiste.
C'est vrai qu'il y a, par certains aspects, des choses, des signaux très encourageants. Et puis, il y a ces réactions qui sont des réactions de violence, bête et méchante en réalité, de brutalité phallique de base. Et en fait, on peut même aussi... souvent, ce sont les mêmes qui sont climato-sceptiques, qui sont homophobes et qui sont racistes. C'est-à-dire que c'est un tout, l'idéologie de la domination. C'est qu'on est les meilleurs, on est les chefs, on domine, mais on domine la femme, on domine l'animal, on domine la planète, on voit où ça nous mène aujourd'hui. Et puis, on domine aussi les autres hommes, parce qu'il y a une chose dont on n'a pas encore parlé et qui, moi, me tient à cœur, c'est qu'en réalité, il ne faut pas englober... Alors, c'est pas le not all men, attention. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes du mythe de la virilité, qui sont aussi victimes de ces injonctions parce qu'ils ne présentent pas les marqueurs de la virilité triomphale. Donc, ceux qui n'ont pas de boulot, ceux qui sont précaires, ceux qui sont tout simplement petits, moches, qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de grosses voitures, qui n'ont pas d'argent. Ils ne sont pas considérés comme des vrais mecs. Et puis, évidemment, il y a toujours une homophobie crasse dans ce pays que ça. Là, on l'a vu à propos des filles, mais enfin, les homosexuels hommes, et ne parlons pas des trans, subissent encore des discriminations extrêmement violentes sur les réseaux et dans la vie réelle. Donc, en fait, on ne peut pas être vraiment optimiste quand on voit à quel point ces phénomènes-là ont du succès. On ne peut pas être totalement serein. Mais c'est vrai que on commence à déconstruire petit à petit tous ces schémas.
Et justement, en partant de ces schémas qu'il faut déconstruire, on peut essayer de créer cette nouvelle masculinité dont on parle et qui peut être l'une des clés pour aller au bout de...
Alors, si on le met au pluriel, je préférerais qu'on le mette au pluriel, parler des nouvelles masculinités, parce qu'il y a autant de masculinité qu'il y a de féminité. En revanche, la virilité, ça, c'est un modèle qui est normatif et qui est prescriptif et qui est un modèle unique avec des canons qui ont été définis pratiquement une bonne fois pour toutes. Force, puissance, domination, puissance phallique, mépris des femmes, mépris des homosexuels, etc. Donc ça, réinventer les masculinités, ça commence déjà par la socialisation des petits garçons. Ouais. Ça commence là.
Oui, Laurent Métry.
Laurent Métry, on parle très bien d'ailleurs.
Ça commence là et ça commence par l'éducation, pour le coup.
Oui, ça commence par l'éducation et puis d'accepter, je crois qu'encore une fois, les toutes jeunes générations l'acceptent mieux que les anciens, mais d'être effectivement, de pouvoir exprimer ses émotions, de pouvoir dire des mots d'amour, par exemple, d'être plus doux, de s'occuper d'enfants, de faire toutes choses qui sont normalement reléguées aux femmes, et en fait, sans être traité, sans se sentir, et c'est un peu tout le problème, on peut être un homme féministe sans être efféminé, ou d'être ou féminin, ou être homosexuel, par exemple. Il y a des choses comme ça qu'il faut décoller. Il y a plein de clichés qui s'agglutent.
Au niveau de l'éducation nationale, il n'y a quand même que 15% des élèves qui, aujourd'hui, ont l'enseignement à l'égalité et à la vie sexuelle et affective que la loi oblige normalement l'éducation impose normalement à l'éducation nationale.
Il paraît qu'il y a
les
pas
profs
assez
sont pas formés. Ils sont pas formés.
Ils commencent à bouger.
Effectivement, c'est une heure de programme qu'on pourrait très bien insérer dans n'importe quel programme d'histoire ou d'éducation.
Non, mais c'est pas vrai.
On a réussi aussi à effectivement, grâce au combat féministe, on a réussi à chasser le sexisme d'un certain nombre, ou en tout cas à bien réguler d'un certain nombre d'endroits. Et l'audiovisuel en fait partie, par exemple.
Absolument.
Les manuels scolaires, etc. Sauf qu'en fait, on a chassé le sexisme par la porte et il revient par toutes les fenêtres. Et en particulier quand même, et on le voit là, par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, on ne le voit pas à la télé. Et bien heureusement, on pourrait l'entendre à la télé, on le voit. Ou alors si on l'entend, le CSA, enfin aujourd'hui l'ARCOM, peut être en capacité d'agir. Par exemple, nous, on a réussi à faire condamner Cyril Hanouna, Fondation des Femmes, Cyril Hanouna, de cette manière-là. Donc, parce qu'en sollicitant l'ARCOM, qui normalement doit réagir à un certain nombre de propos ou de choses qui dépassent les bornes. Et donc, évidemment que les endroits où le sexisme est en liberté, tous ces masculinistes et toutes ces personnes, ça, en fait, ils se déchaînent. Ouais. Et donc, nous, on a l'impression là que tout va bien. Ouais.
Sans parler de la production pornographique qui est très importante, hélas, pour véhiculer
justement ces schémas de domination.
Hier, sur je ne sais pas quelle chaîne de grande écoute, il y avait aussi Michel Sardou qui disait à la télévision que c'était le rôle des femmes de débarrasser la table. Enfin, c'est toujours pareil, c'est le sexisme, il est ordinaire. Et à chaque fois qu'on essaye de... Enfin, évidemment qu'il faut parler de ces mouvements qui sont très inquiétants et je ne vais pas en remettre une tartine dessus, mais à chaque fois qu'on essaye d'associer le sexisme et les violences contre les femmes à des personnes qui sont monstrueuses, qui sont déviantes, qui sont dans des discours très extrêmes, je crois qu'aussi on échoue à parler du sexisme ordinaire. J'ai vu cette phrase passer, et je me demande si ce n'est pas dans la préparation de l'émission, est-ce que les incels sont les hommes violents de demain ? Oui, potentiellement, peut-être, mais les hommes violents de demain, ce sont aussi nos fils, nos frères, comme les hommes violents d'aujourd'hui, en fait. L'homme violent, il est ordinaire, la violence masculine, elle est complètement inculquée aux enfants, dans les films, dans tout ce qu'on regarde, dans l'éducation, dans la cour de récréation. Et le sexisme, il doit être traqué, en fait, dans le quotidien.
Et dès la cour de récré, vous disiez que ça ne passera pas tout le temps par le répressif, et pas uniquement par le répressif. Et peut-être que c'est l'éducation qui peut aller attaquer ces poches de résistance dont on parle.
Nouvelle pause musicale dans De Boule Vanille sur Canal B. On écoute Home de Coco Ikoura.
Grenzen überwinden, Gedanken schwerelos verbinden, die pensées sans frontières, est-ce la fin de la misère? Habitant la terre, swipen, zwitschern, snappen, liken, durch ne Linse sehen und weit verbreiten, doch Heimat nirgendwo. Le cœur brisé, Heimat c'est qu'un mot. Tendre le couteau. Sie sagen, home is where your heart is. Mais je l'ai perdu. Home is where your heart is. Ça n'existe plus. Je marche. Le marché noir, die Finsternis, verbindungsarm und gangsterisch. Borders meins und Stacheldraht. L'esprit brisé, la vie se cache, la c'est. Heimlich épuisé. Sie sagen, home is where your heart is. Mais je l'ai perdu. Home is where your heart is. Ça n'existe plus. Je marche. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche.
Coco Écurin sur Canal B dans De Boule Vanille. L'amour Pour la sexualité, on s'en parle, oui oui, avec un point d'exclamation. C'est le titre du livre paru ce printemps dans la collection Sans Tabou des éditions Magenta de Suzanne Joly. Et je vous propose d'écouter ou de réécouter son interview. Il y a quelques jours, trois associations, le Planning Familial, SIDAction et SOS Homophobie, après avoir tiré la sonnette d'alarme pendant plusieurs années, ont décidé de passer à l'action en portant plainte contre l'État français pour non-application de la loi de 2001 sur l'éducation à la sexualité et à la vie affective. Le 2 mars, elles ont saisi le tribunal administratif de Paris pour faire reconnaître la responsabilité de l'État dans le défaut de mise en œuvre de la loi de 2001. Mais alors que prévoit cette loi depuis plus de 20 ans donc ? Eh bien, une éducation à la sexualité à raison de 3 séances obligatoires par an et par élève, chaque année du CP à la terminale, soit au minimum 36 séances dans une scolarité, pas des masses en somme. Ces séances visent à éduquer à l'égalité, au respect du corps et de la liberté de chacune et chacun, au respect de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle de chacune et chacun, au consentement aussi. Elles doivent informer sur toutes les formes de violences sexistes et sexuelles, permettre de les prévenir et d'apprendre aux jeunes comment réagir quand elles sont témoins ou victimes et comment appeler à l'aide. Or, dans les faits, seuls 15% des écoliers et des lycéens et moins de 20% des collégiens en bénéficient selon un récent rapport de l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche. Florence Thune, directrice générale de SIDAction, est convaincue que la non-application de cette loi entraîne une dégradation des connaissances sur le VIH, ainsi qu'une hausse des contaminations. Depuis quelques années, la proportion de jeunes de moins de 25 ans parmi les personnes qui découvrent leur séropositivité augmente. On était à 11% en 2013, aujourd'hui on est à 15%. Sarah Durocher, présidente du Planning Familial, affirme, elle, que des violences sexistes et sexuelles comme des attaques contre les personnes LGBT pourraient être évitées si cette loi était pleinement appliquée. L'éducation à la sexualité a fait ses preuves, elle donne des compétences psychosociales essentielles pour développer l'autonomie, la confiance en soi, l'empathie des élèves et des relations saines et équilibrées avec autrui. Enfin, Lucille Joma, présidente de SOS Homophobie, déclare « Il faut mettre en place une politique interministérielle et pérenne. Financer une telle stratégie de prévention représente des sommes ridicules pour le budget de l'État. » Ainsi, les trois organisations interviennent en soutien aux enseignants et enseignantes dans de nombreux établissements scolaires. Le Planning Familial estime ainsi sensibiliser 130 000 jeunes chaque année dans plus de 2000 écoles, collèges ou lycées. Mais une demande sur deux d'intervention ne peut aboutir, faute de moyens humains et de financement public. Quelques jours après ce dépôt de plainte contre l'État, on découvrait les résultats de la seconde enquête CIVIS, Système d'information et de vigilance sur la sécurité scolaire, pour les années 2021-2022, menée dans les établissements publics du premier et second degré. Et elle révèle qu'une violence sur trois exercée par les garçons envers les filles est à caractère sexuel dans le primaire, c'est une sur quatre dans le secondaire. Bref, c'est la merde. Heureusement, nous avons quelques sujets de réjouissance. Bonjour Suzanne Joly.
Bonjour.
Votre livre « L'amour, la sexualité, on s'en parle » est paru dans la collection « Sans tabou » des éditions Magenta. Il est illustré par Clémentine Latron. Alors, connaître son corps, comprendre l'amour, bien maîtriser la notion de consentement, s'informer sur la contraception, prévenir les violences et bien d'autres choses encore. C'est un ouvrage très riche et complet, et même interactif, hein, parce qu'on peut écrire dedans. Est-ce que vous pouvez un peu nous le décrire, ce livre, Suzanne, parce que c'est un guide, mais pas que.
Bah, y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais oui, déjà, c'est un livre qui est à destination des 12-15 ans, donc plutôt collégiens, collégiennes. C'est interactif dans le sens où ils peuvent écrire dedans, dessiner, répondre à des vrais faux, etc. Donc le but, c'est d'être un peu entre le journal intime et puis le guide sur les questions d'éducation à la sexualité. La maquette, elle est très colorée, très aérée, pour justement donner envie. Il y a aussi pas mal de témoignages de jeunes qui ont accepté de participer, du coup, et de témoigner dans cette ouvrage. Donc ça, c'est chouette pour aussi pouvoir s'identifier à des jeunes qui tout simplement vivent les mêmes choses et qui se posent les mêmes questions. Donc rien que ça, c'est rassurant. Et puis bah voilà, les thématiques abordées, vous l'avez dit, c'est tout ce qui est l'approche relationnelle en fait de la sexualité. Donc effectivement le rapport au corps, la connaissance de soi, le respect de l'autre, le consentement, la prévention des violences, les contraceptions, l'orientation sexuelle, etc., etc.
Alors, j'ai ouvert par hasard, je suis tombée sur un vrai ou faux, des questions donc, qu'on pose aux lecteurs, lectrices qui seront des collégiens. Alors, la loi interdisant aux femmes de porter des pantalons était toujours en vigueur en 2010. Vrai ou faux? Eh bien, je vous laisse deviner et acheter le livre de Suzanne pour savoir. Il y a le chapitre 3 aussi, dans mon slip, avec éjaculation, cycle menstruel et reproduction. Enfin, des vraies questions qu'on se pose à ces âges-là et il faut sans doute y répondre à ces âges-là. Pourquoi ce livre, Suzanne? Peut-être une conséquence de ce que vous pouvez voir et entendre dans les ateliers que vous menez, Suzette d'École Les Étiquettes?
Oui, voilà, j'interviens en collège sur les questions d'éducation à la sexualité. Donc, on aborde toutes ces choses-là et on voit qu'il y a un énorme besoin. Les jeunes, ils ont, même s'ils sont un petit peu gênés, s'ils rigolent, etc., ce qui est normal parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de sexualité de manière ouverte. Mais le but, c'est vraiment de briser les tabous, de répondre à leurs questions, de les rassurer parce qu'ils cherchent toujours à savoir s'ils sont dans la normalité vis-à-vis de, je sais pas moi, de l'âge des règles, de l'âge des premières éjaculations, de l'âge de la première fois, ce genre de choses. Ils ont besoin d'être rassurés, puis d'avoir accès à des connaissances qui soient à la fois scientifiques sur le fonctionnement des parties génitales, par exemple, mais aussi des connaissances fiables et sans jugement. Donc le but, c'est vraiment de briser les tabous, répondre à leurs questions, rassurer, puis tout simplement échanger. Et en fait, on voit très très vite dans les séances d'éducation à la sexualité que on voit très vite en fait les jeunes qui ont l'habitude d'en parler ou pas à la maison, et ça change tout dans le comportement. Il y a un comportement qui est inadapté quand les jeunes ne savent pas ou peu. Et ça, c'est clair et net. Donc, plus on en parle, et mieux c'est. Et donc, ce livre, c'est vraiment ça. Il en existe plein, hein, des livres qui parlent d'éducation à la sexualité, mais c'est un de plus qui peut peut-être s'adresser davantage aux collégiens, collégiennes, être interactif encore une fois, et puis répondre à leurs questions. Ce sera jamais de trop, en fait.
Et notamment pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'en parler chez eux, qui n'osent pas, c'est le moyen aussi de lire ça dans sa chambre et donc de s'informer, d'avoir des schémas aussi très, très clairs et très utiles. Hein. Alors là, je tombe sur la cup, mais tout à l'heure, je suis tombée sur une verge. Enfin, voilà, et de dire, oui, je suis normale, parce qu'en fait, tout le monde a ça quand on n'a pas forcément aussi d'ordre de comparaison. Mm-hmm. Même ceux qui en parlent peuvent bien sûr ouais. le prendre. Selon vous, là j'ai rappelé qu'il y avait des associations qui portaient plainte et on contre l'État, et on parle de questions tabous. Pourquoi encore aujourd'hui ce sont des sujets tabous, notamment en France?
Moi, je pense que c'est parce que on projette trop notre vision d'adulte sur la sexualité. Et il faut revenir aux bases, c'est-à-dire au développement psychosexuel des enfants et des jeunes. C'est que ça fait partie, en fait, des apprentissages naturels de la vie, de découvrir son corps, de découvrir son sexe, de savoir à quoi il sert. Il sert pas que à se reproduire, il sert à uriner, à prendre du plaisir, etc. Et ça, en fait, c'est juste naturel, c'est le fonctionnement de nos organes génitaux. Et donc, il faut briser les tabous par rapport à ça.
On a tendance, comme dans beaucoup d'autres domaines, donc à calquer ce que nous on ressent adultes sur les enfants et à penser qu'ils pourraient avoir les mêmes envies, les mêmes idées, et que il faut se faire attention, voire se méfier, quoi.
Ouais, c'est... En fait, on pense que ça va créer de la confusion ou alors des questionnements qu'ils n'ont pas encore, mais c'est faux. Ils ont déjà ces questionnements, donc il faut pouvoir y répondre. C'est une curiosité, encore une fois, qui est naturelle et qu'il faut pouvoir satisfaire. Et le but, c'est évidemment pas de rentrer dans des discours pornographiques ou très techniques sur la sexualité partagée avec quelqu'un. Non, c'est juste de faire de la prévention. Donc encore une fois, parler d'amour, de sentiments, de plaisir, parler d'attirance envers le même sexe ou pas, de parler de consentement, de contraception, etc. Et donc tout ça, c'est juste donner en fait la boîte à outils pour une sexualité qui est saine, qui est respectueuse. Et donc, plus on donne d'outils, et mieux c'est. Et la répétition est très importante dans ces situations.
Oui, répéter et ne pas hésiter à répondre aux questions. Ça peut prévenir aussi bien des violences sexuelles, mais aussi des agressions parce qu'on a une orientation sexuelle qui déplaît à certains. Ça prévient tout ça également, et c'est important dans nos sociétés où on constate que les féminicides sont toujours là, les viols sont toujours là et même augmentent. Donc, qu'est-ce qui bloque, à quel niveau ça bloque? On a vu, on porte plainte contre l'État. Est-ce que ce sont les enseignants, et notamment de SVT, qui ne seraient pas assez formés? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les parents aussi qui bloquent sur ces séances d'éducation à la sexualité?
Effectivement, c'est un peu multifactoriel. Ce que les équipes ont l'air de dire, c'est qu'il y a un manque de moyens et de formation. De base, normalement, l'égalité filles-garçons, l'éducation à la sexualité, c'est au programme, mais en réalité, c'est très peu abordé dans les masters d'enseignement, etc., qu'on soit de SVT ou pas, parce que la reproduction, par exemple, on le voit dès le CM2. Donc, il faut pouvoir se sentir à l'aise pour aborder ça, répondre aux questions, et savoir comment amener tout ça. Donc, il y a ce manque de formation qui est décrié, le manque de moyens, parce qu'effectivement, on rajoute toujours plus de choses dans les plannings des profs et des élèves, et donc, il faut pouvoir orchestrer un petit peu tout ça. Et donc le manque de budget si on veut faire appel à des organismes extérieurs spécialisés pour répondre à ces questions, quoi. Et je rajouterais aussi que les parents, effectivement, c'est pas tout le temps, mais parfois ça peut être un frein, justement par peur, par crainte de qu'est-ce qu'on va dire aux élèves, etc. Donc là encore, il y a besoin d'éduquer aussi les parents à ces sujets-là, de les rassurer sur le fait que, on va juste suivre, encore une fois, le développement psychosexuel des jeunes, on va pas leur imposer des choses, etc. Puis nous-mêmes, en tant qu'animateurs, animatrices, dans ces séances-là, on est très vigilants et vigilantes à ce que ça se passe bien, à ce qu'il n'y ait pas trop de gêne, à proposer des alternatives si vraiment ça gêne, etc. Et bien sûr, on ne va pas forcer les élèves à participer à quoi que ce soit. Le but, c'est plutôt de répondre à leurs questionnements à eux.
On l'avait vu en 2014 quand Najat Vallaud-Belkacem avait tenté mettre en place les ABCD de l'égalité. Les parents d'élèves, certains parents d'élèves qui s'étaient élevés contre ça avec des arguments pas toujours très très intelligents, on va dire. Et on était il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça pourrait encore être le cas, quoi.
Il y a énormément de confusion autour de toutes ces notions, genre, identité de genre, orientation sexuelle, etc. Il y a énormément de confusion et de méconnaissance, donc c'est pour ça aussi qu'il faut lire des ouvrages et se documenter sur le sujet, parce que c'est pas, clairement c'est de la méconnaissance, donc il faut revoir les bases de ce point de vue-là pour aussi comprendre que c'est tout à fait adapté et voilà.
Oui, c'est parce que c'est des sujets tabous, c'est qu'on a aussi une grande ignorance, et l'ignorance amène aussi la colère, donc des réactions un peu vives par rapport à ça. Donc toutes les précautions, en fait, sont prises autour de ça, et moi ça me paraît dingue, puisque c'est écrit dans la loi, et que nul n'est censé ignorer la loi, même parents d'élèves. Donc il y a toujours plein de précautions autour.
C'est pris avec des pincettes, effectivement. Ouais.
Et j'imagine, c'est ma question, est-ce que les enfants, les ados, notamment là, puisque votre livre s'adresse aux collégiens et collégiennes, ne sont pas plus ouverts que les adultes par rapport à tout ça, sauf ceux qui sont gênés, mais...
Moi, je trouve, en tout cas, ça me donne de la foi d'aller dans les collèges, parce qu'effectivement, les questions LGBT, on peut les aborder de but en blanc. Alors, parfois, ça m'est arrivé d'avoir quelques réactions, etc., mais j'ai jamais eu de manque de respect ou quoi pendant les séances. Donc, il y a une ouverture d'esprit par rapport à ça. Il y a un effet générationnel, quoi. Donc, tant mieux. Même sur la notion du consentement, c'est un mot qui est connu des jeunes, donc ça fait plaisir aussi. Donc il y a eu un vrai travail de fait en amont sur les réseaux sociaux, par les militants, militantes féministes, etc. Et donc on voit que c'est nécessaire et que ça porte ses fruits. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut poursuivre.
Ça avance un peu et heureusement, et justement pour rester sur ces collégiens, collégiennes, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent chez eux quand vous êtes en atelier d'éducation à la sexualité, à la vie affective ?
Bah, il y en a beaucoup qui concernent le fonctionnement des parties génitales. Donc on revoit les différentes parties de la vulve et du pénis par exemple, et donc ça amène des questions sur la taille, sur les rapports sexuels, sur la taille du sexe, ça revient tout le temps, sur l'âge des premières règles, sur est-ce que c'est normal d'avoir des pertes blanches et pas ces règles, sur comment bien se nettoyer le sexe par exemple, et puis après c'est aussi sur toutes les questions de sexualité, quoi, comment on fait l'amour concrètement. est-ce qu'on peut tomber enceinte tout le temps ou à partir de quel âge, etc. Est-ce qu'on a ces règles toute sa vie ou est-ce que ça s'arrête? Parfois j'entends oui, ça s'arrête à 18 ans, ce genre de truc. Oui, les plus farfelus après que j'ai entendu, c'est par exemple sur le goût du sperme, mais ça vient clairement des réseaux sociaux, c'est-à-dire est-ce que le sperme peut avoir un goût d'ananas si on mange beaucoup d'ananas? Donc ça vient directement des réseaux sociaux, donc aborder tout ça avec les jeunes, faire la part des choses entre ce qu'on voit sur les réseaux justement et la réalité. Parfois aussi j'entends l'existence d'un gland de lait, donc c'est-à-dire un gland qui tomberait à partir d'un certain âge pour laisser place à un gland d'adulte, comme pour les dents de lait en fait.
Ah ouais, ça va loin quand
donc,
même les fake news là.
Problématique, voilà. Ça fait peur en fait. Donc
j'imagine.
C'est pas arrivé une fois qu'on pose cette question là. Donc clairement, l'impact des réseaux est à prendre en compte.
C'est ce qu'on appelait les rumeurs, alors urbaines ou pas, mais c'était
légendes urbaines.
Les légendes urbaines, ouais. Ah oui, le gland de lait, d'accord.
Et puis après, il y en a qui se posent des questions sur l'orientation sexuelle, donc c'est ou voir la transidentité, donc c'est comment est-ce que je peux le dire à mon entourage, ce genre de choses.
Et les questions, elles sont posées en classe entière ou il y a des systèmes d'écrit ou en demi-groupe
Souvent, ce sera plutôt soit un petit groupe s'ils se sentent en confiance avec leurs amis, soit ils viennent nous voir en fin de séance pour poser des questions discrètement. Ou alors, effectivement, parfois, il y a des séances de questions-réponses anonymes. Donc, ils ont préparé leurs questions en amont, mis dans une boîte, et on y répond devant toute la classe.
Ouais,
devant le groupe.
Pour qu'ils osent au moins poser leurs questions sur effectivement le goût que peut avoir le sperme. Alors moi j'avais entendu est-ce qu'on pouvait tomber enceinte avec en avalant du sperme. Voilà, mais c'est important aussi de répondre à ces questions parce qu'elles sont vraiment très sincères et parfois elles peuvent hanter des ados,
ouais.
Et jusqu'à refuser d'avoir une relation parce que on a peur, et si on répond pas à ces questions, on entretient finalement la peur et c'est pas bon. En tout cas, je rappelle la sortie de l'amour, la sexualité, on s'en parle. C'est illustré par Clémentine Latron. C'est dans la collection Sans Tabou des éditions Magenta. On l'a dit, hein, c'est super parce que y a des jeux. Je vais en citer un. Il existe plus de 20 motifs de discrimination interdits par la loi. En retrouveras-tu certains ? Et là, il y a des petits dessins sur la taille, les chromosomes, parce que j'ai vu que vous expliquiez tout ça. Et il faut répondre. Puis il y a les réponses. Il y a les témoignages. Pendant les règles, j'ai de grosses crampes dans le bas du ventre ou mal dans le bas du dos et parfois je vomis. Du coup, je me sens beaucoup plus fatiguée que d'habitude. Et ça, je trouve important aussi les règles, de dire aux garçons. Certaines filles peuvent vraiment souffrir et être fatiguées et avoir très mal au ventre, et c'est pas anodin, et il faut arrêter.
Et ce n'est pas sujet à moquerie.
Voilà.
Tout comme quand on se tord la cheville, en cours de sport, on a mal, on est agacé par la situation. Et ça suscite de l'empathie, en fait. Et c'est pareil pour les règles. Je tiens quand même à rappeler que les règles, dans la théorie, c'est pas censé faire mal. Maintenant, dans la pratique, effectivement, il y a beaucoup de personnes menstruées qui sont concernées par les douleurs de règles. Et du coup, En tout cas, en séance d'éducation à la vie affective et sexuelle, on parle beaucoup aussi des règles avec les garçons et c'est tout à fait, enfin, ça se passe très bien. Ils sont aussi curieux de ça. Enfin, c'est parfois, ça m'arrive d'entendre, oui, ça me concerne pas parce que, bah voilà, j'ai pas mes règles, etc. Mais dans la grande majorité des cas, ils ont envie de savoir comment ça se passe et donc c'est très chouette d'avoir aussi ces discussions-là. Tout comme les discussions sur les éjaculations aussi pour comprendre comment tout le monde fonctionne finalement.
Ouais, il y a quelques tabous quand même qui tombent. Ce genre de livre aide aussi beaucoup et les ateliers que vous proposez, Suzette décolle les étiquettes. On espère que Pape Ndiaye, un ministre, mais pas que lui, un ministre de l'Éducation nationale, va prendre le problème à bras le corps. Il paraît qu'il s'en est saisi, je ne sais pas, et que avant que la plainte aboutisse, on ait plus de séances, les enfants et leurs 36 séances, c'est pas grand chose en fait. Du CP à la terminale, c'est pas énorme, mais qu'ils aient au moins leurs 36 séances parce que ça en fera des adultes bien plus équilibrés.
Irresponsables. De leur propre corps, de leur propre désir et puis responsables vis-à-vis des autres et être à l'écoute des autres, etc.
Et ça, c'est important. Merci, Suzanne,
merci
d'être venue nous parler de l'amour, la sexualité. On s'en parle. On le retrouve partout, hein, dans toutes les librairies. Voilà, pour les ados, collégiens, collégiennes, pour qu'ils puissent tout savoir de leur corps, de leur sexualité, des autres, de l'amour aussi, quand on ne sait pas trop si on est attiré par les filles, les garçons. C'est un très, très chouette ouvrage, très coloré. Et moi, je suis sûre que ça va plaire à plein d'ados. Merci beaucoup, Suzanne.
Merci.
À bientôt. Debout le vanille, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est tous les soirs à 17h et en rediffusion le lendemain à 8h. Nous, on va se quitter ce soir en musique avec le titre Baleine de Tout Bleu. Salut.
Je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Deux boules vanille.